Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Relations clients et animation de réseau est un ouvrage pédagogique destiné aux étudiants de première et deuxième année du BTS NDRC, diplôme centré sur la négociation, la digitalisation de la relation client et le développement commercial. Signé Sophie Barbier, ce support se situe dans le champ de la préparation à l'enseignement et à l'évaluation E6, consacré à la relation client et à l'animation de réseau. Les informations disponibles le présentent comme un outil de cours et d'entraînement, associant apports structurés, exercices, corrigés et préparation aux situations d'évaluation. Son objet N est donc pas de proposer une théorie autonome du management commercial, mais de traduire les compétences attendues du référentiel en méthode de travail mobilisable. L'ouvrage aborde les réseaux de distributeurs, de partenaires et de ventes directes, ainsi que les actions de promotion, de prospection, de recrutement, de formation et de pilotage qui les rendent opérationnels. Il relie ainsi la qualité de la relation commerciale aux résultats collectifs d'un réseau et aux exigences concrètes de la mise en œuvre sur le terrain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, relier le référentiel E6 aux situations commerciales observables. La valeur première d'un manuel consacré à la relation client et à l'animation de réseau réside dans sa fonction de traduction. Le référentiel du BTS NDRC formule des compétences professionnelles larges, telles que développer une présence chez les distributeurs, mobiliser des partenaires ou animer une force de vente directe. Pour un étudiant, ces intitulés ne deviennent réellement exploitables que lorsqu'ils sont associés à des décisions, à des preuves d'activité et à des critères d'évaluation. L'ouvrage s'inscrit dans cette logique d'application et de préparation. Il conduit à distinguer une intention commerciale, par exemple accroître la diffusion d'une offre, des actions nécessaires pour y parvenir, puis des résultats qui permettront d'en apprécier l'efficacité. Cette articulation évite de réduire le travail de réseau à une simple prise de contact. Une action doit être adaptée au contexte, préparée avec des informations fiables, exécutée dans le respect des contraintes de l'entreprise et suivie par un bilan. Les exercices et corrigés annoncés ont ici une utilité méthodologique importante. Ils permettent de vérifier non seulement la connaissance du vocabulaire, mais aussi la capacité à qualifier une situation, justifier une recommandation et sélectionner des indicateurs. Dans la perspective de l'épreuve E6, cette approche aide à présenter une expérience professionnelle de façon concise, structurée et directement reliée aux compétences attendues. Deuxièmement, implanter et valoriser une offre dans un réseau de distributeurs. Le réseau de distributeurs pose un problème spécifique de relation client, car l'entreprise ne maîtrise pas seule le point de vente. Elle doit faire vivre son offre dans un environnement partagé avec le distributeur, ses équipes, ses contraintes de surface, ses propres objectifs et les offres concurrentes. Le travail d'implantation commence donc par l'observation. Il faut repérer la présence effective de la marque, contrôler l'application des accords de référencement, analyser la visibilité des produits et identifier les occasions de développer leur place. Une recommandation pertinente ne consiste pas uniquement à demander davantage de linéaire, elle doit montrer en quoi l'offre améliore l'assortiment, répond aux attentes des clients finaux ou soutient la performance du magasin. L'animation commerciale, la valorisation sur le lieu de vente et le conseil concernant l'expérience de consommation deviennent alors des leviers complémentaires. Ils donnent une réalité concrète au référencement et facilitent la rotation des produits. Cette dimension explique pourquoi le diagnostic du rayon, de la zone de chalandise ou du réseau est déterminant dans les compétences évaluées. L'étudiant doit apprendre à passer de constats précis à une proposition réalisable, en tenant compte des ressources disponibles et de la relation avec l'interlocuteur. La qualité du suivi est tout aussi essentielle. Mesurer la disponibilité, la visibilité, les ventes ou les retours du point de vente permet d'ajuster l'action et de démontrer sa contribution commerciale. Troisièmement, développer des partenariats fondés sur une valeur réciproque. L'animation d'un réseau de partenaires ne se confond pas avec la gestion d'un portefeuille de clients. Un partenaire est choisi parce qu'il peut contribuer à une offre, à une prescription, à une mise en relation ou à une couverture de marché que l'entreprise ne pourrait obtenir seule avec la même efficacité. Le développement du réseau suppose donc d'abord une sélection raisonnée. La proximité géographique, la complémentarité des activités, l'accès à une cible commune, la crédibilité et la compatibilité des pratiques commerciales constituent des éléments de décision plus solides qu'un simple volume potentiel. Le manuel prépare à examiner cette cohérence avant de proposer une collaboration. Une fois le partenaire identifié, la mobilisation repose sur une communication régulière, des objectifs compréhensibles et des modalités d'action partagées. Diffuser une information actualisée, organiser des échanges ou mutualiser certaines pratiques peut réduire les incompréhensions et rendre le réseau plus réactif. Toutefois, l'animation n'a de sens que si elle est évaluée. Il convient d'apprécier les résultats obtenus au regard des moyens engagés. par exemple à travers les contacts transmis, les opportunités créées, les ventes influencées ou la participation aux actions communes, cette approche rappelle qu'un partenariat durable dépend d'un bénéfice identifiable pour chaque partie. Elle introduit aussi une exigence de professionnalisme, car la confiance du réseau peut être affaiblie par des promesses imprécises, un suivi insuffisant ou le non-respect des engagements et de la réglementation. Quatrièmement, organiser la vente directe et faire grandir un réseau de conseillers. La vente directe associe étroitement la vente, le conseil et la construction d'une communauté de vendeurs. Dans ce cadre, la relation ne se limite pas au client final rencontré à domicile, sur un lieu de travail ou lors d'une réunion. Elle concerne également les conseillers qui portent l'offre, entretiennent les contacts et contribuent à la continuité du réseau. Le développement commercial dépend ainsi de deux mouvements liés mais distincts. Le premier consiste à prospecter, organiser les rencontres, préparer l'argumentation et conclure les ventes dans un contexte souvent plus personnalisé que celui du magasin. Le second vise à recruter, intégrer et former des vendeurs capables de représenter l'entreprise de manière cohérente. L'ouvrage permet de comprendre que recruter sans accompagner fragilise rapidement le réseau. Les nouveaux conseillers ont besoin d'informations sur l'offre, de méthodes de vente, de repères éthiques et d'un soutien pour organiser leur activité. L'animation doit aussi créer une dynamique collective sans ignorer l'autonomie fréquente de ces vendeurs. Réunions, partage de bonnes pratiques, communication des évolutions, de l'offre et reconnaissance des contributions peuvent soutenir la mobilisation. La performance ne se mesure donc pas par les seules ventes immédiates. Le nombre et la qualité des contacts, la régularité de l'activité, la capacité à fidéliser les conseillers et la pérennité du réseau sont également significatifs. Cette vision donne à la vente directe une dimension de pilotage relationnel, au-delà de la transaction ponctuelle. En dernier lieu, construire un pilotage par l'information, le reporting et l'amélioration continue. Les trois formes de réseau étudiées diffèrent par leurs acteurs et leurs canaux, mais elles reposent sur une même discipline de pilotage. Il faut collecter des informations, les transformer en enseignements utiles, partager ce qui doit l'être et décider d'ajustements. Cette chaîne donne une place centrale au reporting. Celui-ci ne doit pas être compris comme une formalité administrative effectuée après l'action. Il sert à conserver la trace des contacts, des accords, des difficultés rencontrées, des résultats et des opportunités repérées. Ces données rendent possible un suivi cohérent par l'étudiant, son tuteur et l'entreprise. Elles facilitent aussi la préparation d'une action ultérieure, car une recommandation commerciale est plus crédible lorsqu'elle s'appuie sur des faits observés. Le pilotage suppose ensuite des indicateurs adaptés à l'objectif. Une opération de distribution pourra être suivie par la présence de l'offre et sa visibilité. Un partenariat pourra être apprécié par les affaires générées ou l'implication du partenaire. Une animation de vente directe pourra intégrer le recrutement, l'activité des conseillers et les ventes réalisées. Le choix des indicateurs doit rester proportionné et intelligible. Multiplier les chiffres sans lien avec la décision masque souvent l'essentiel. Enfin, l'ouvrage place cette logique de suivi dans un cadre de conformité. La diffusion d'informations réglementaires, le respect de l'éthique commerciale et l'actualisation des pratiques sont nécessaires pour que la performance du réseau ne soit pas obtenue au détriment de la confiance ou des règles applicables. En conclusion, relations clients et animation de réseau s'adressent en priorité aux étudiants de BTS NDRC qui doivent acquérir des repères solides pour l'enseignement de relations clients et animation de réseau et pour l'épreuve 6. Il sera également utile aux enseignants, aux tuteurs et aux personnes qui accompagnent des alternants, car il fournit un langage commun pour relier les activités réalisées aux compétences du diplôme. Son bénéfice pratique tient à son orientation vers l'action. Plutôt que de traiter le réseau comme une notion générale de marketing, il conduit à analyser des situations où il faut implanter une offre, sélectionner un partenaire, mobiliser des acteurs, recruter des conseillers ou mesurer les résultats d'une animation. Cette focalisation aide l'étudiant à passer d'une description d'expérience à une analyse professionnelle justifiée. L'intérêt intellectuel du support réside aussi dans la mise en relation de plusieurs niveaux de performance. La qualité de la relation avec un distributeur, un partenaire ou un vendeur direct influence la visibilité de l'offre, la circulation de l'information, la coordination des actions et la durabilité des résultats. Par rapport à un manuel commercial généraliste, l'ouvrage se distingue donc par son ancrage explicite dans les attendus du BTS NDRC, son attention aux trois types de réseaux du référentiel et son usage d'exercices corrigés pour préparer l'évaluation. Il convient particulièrement aux lecteurs qui recherchent un support structuré, appliqué et directement exploitable dans la préparation de dossiers, d'analyse d'activité et de présentation orale. Si vous souhaitez soutenir Sophie Barbier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.